le mag de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec le ministère en charge du logement sur Radio Territoria.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro que nous allons aujourd'hui consacrer à l'adaptation de la loi 3DS de l'article 55 de la loi SRU imposant à certaines communes un taux minimal de logements sociaux. Ça a l'air un tout petit peu technique, mais vous allez voir, d'ici une demi-heure, vous saurez tout, surtout concernant ce sujet. Et pour en parler, je suis évidemment en compagnie de Michel Phelep, qui est de retour parmi nous. Bonjour Michel.
Bonjour Johanna.
Je rappelle que vous êtes chef de la mission mobilisation des territoires au sein de la direction chargée de l'habitat et de l'urbanisme des ministères en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et à nos côtés aujourd'hui, nous accueillons Laurent Bresson. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Vous êtes sous-directeur des politiques de l'habitat à la direction chargée de l'habitat et de l'urbanisme des ministères en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et à vos côtés, on retrouve Benoît Chantoiseau. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Vous êtes le chef du bureau du développement de l'offre de logement social et intermédiaire à la sous-direction des politiques de l'habitat. Messieurs, ravis de vous accueillir. On va pouvoir aujourd'hui, je le disais, parler de l'adaptation de la loi 3DS de l'article 55 de la loi SRU imposant à certaines communes un taux minimal de logements sociaux. C'est tout de suite avec la thématique du jour.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, la thématique du MAG.
Petit rappel avant de démarrer avec nos invités, la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain, dite loi SRU du 13 décembre 2000, impose l'obligation pour certaines communes de disposer d'un taux minimum de logements sociaux allant de 20 à 25% par rapport à l'ensemble des résidences principales. Le dispositif SRU, qui courait jusqu'à 2025, est désormais pérennisé par la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et qui porte diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite 3DS, et qui a été promulguée le 21 février 2022. Vous le voyez, c'est tout récent. Le texte modifie substantiellement le mécanisme SRU sur les modalités de rattrapage, par exemple, ou sur la place accrue des contrats de mixité sociale. Alors avant d'aborder ces évolutions du dispositif SRU, et en première question, je me tourne vers vous, Laurent Bresson. Où en est-on de la mise en œuvre de cette loi SRU ?
Alors on peut dire que depuis 20 ans, la loi SRU a finalement acquis une place tout à fait centrale, une place structurante dans la politique du logement. Elle est fondée sur un principe simple, même si sa mise en œuvre est parfois plus complexe. Le principe veut que les communes les plus importantes du territoire national se doivent d'atteindre une part de 25% de logements sociaux dans l'ensemble de leur parc de résidence principale ou, par exception, de 20% lorsqu'elles appartiennent à des territoires un petit peu moins tendus. Alors, on peut dire tout d'abord que depuis 20 ans, la loi SRU a à son actif un bilan extrêmement favorable, puisque sur les quelques 1,8 million de logements sociaux qui ont été produits au cours de ces 20 dernières années, la moitié l'ont été dans des communes soumises à la loi SRU, autrement dit dans des communes qui sont déficitaires au regard de cet objectif de 25 ou de 20% à atteindre et qui sont donc astreintes à cet exercice de rattrapage de leur offre de logement social. Le chemin qui reste à parcourir est néanmoins extrêmement important et je dirais que plus on s'approchait de l'échéance de 2025 qui, avant la loi 3DS, était inscrite dans la loi SRU, plus la pente était forte pour les communes inscrites dans cette obligation de rattrapage, avec environ de l'ordre de 600 000 logements locatifs sociaux qui restaient à produire d'ici 2025. 600 000 logements sociaux à produire d'ici 2025 pour environ 1100 communes soumises à cette obligation, de rattrapage, pour beaucoup d'ailleurs d'entre elles, pour une très, très forte proportion d'entre elles, soumises depuis l'origine de la loi SRU en 2021. Alors, Une fois qu'on a dit ça, on peut aussi se dire que finalement, cet exercice qui devenait de plus en plus complexe, plus on se rapprochait de l'échéance de 2025, il est aussi illustré par un autre constat. Le constat que, autant pour certaines communes, il n'y avait pas de difficulté à s'inscrire dans cette trajectoire qui était tenue, et puis pour d'autres, parce qu'elles sont notamment situées dans des contextes plus difficiles, plus contraignants, toutes les communes ne sont pas d'une certaine manière à égalité avec l'enjeu du développement de l'offre de logement. Les contraintes sont très variables sur le territoire, et on peut dire aujourd'hui que environ une commune sur deux était en difficulté pour atteindre ses objectifs de rattrapage. D'ailleurs, on le voit bien au travers du dernier bilan triennal, le bilan triennal de la période 2017-2019, puisque cet exercice de rattrapage, il est ponctué par un rythme triennal, où on retrouvait cette proportion d'une commune sur deux atteignant ses objectifs ou, à contrario, ne les atteignant pas. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est que on a également constaté que la moitié des communes déficitaires se trouvaient encore aujourd'hui à plus de 10 points de leur objectif cible, c'est-à-dire à plus de 10 points de 25% si elles sont soumises à 25%, ou de 20% si elles sont soumises par dérogation à ce taux de 20%. Donc on voit que finalement, on a cette moitié de communes en difficulté, pour laquelle la route était encore extrêmement raide à parcourir, et pour lesquelles finalement, l'échéance de 2025 ne devenait plus crédible. Et finalement, c'est ce constat, pour en terminer, qui a finalement fondé les grands principes portés par le législateur dans la loi 3DS, proposée par le gouvernement. Le premier principe étant de finalement pérenniser le dispositif et l'affranchir donc du coup de cette échéance, à très brève échéance de 2025. Le deuxième principe, c'est de rendre plus soutenable l'exercice pour les communes astreintes au rattrapage. Et le troisième principe fondateur de ces adaptations prévues par la loi 3DS, c'est un principe d'adaptabilité au territoire, favoriser, introduire dans le mécanisme SRU des capacités d'adaptation au territoire, parce que comme on l'a vu finalement, tous les territoires ne sont pas à égalité par rapport à l'enjeu de production massive de logements.
Benoît Chantoiseau, Laurent vient de nous dire pérenniser, rendre plus soutenable. Ce sont des points importants de la loi 3DS. Quels sont les mécanismes qui ont été retenus par rapport à ça ?
Oui, en effet, Laurent vient de le rappeler. L'ancien dispositif fixait une échéance 2025 qui impliquait des objectifs extrêmement élevés pour les communes très éloignées de leurs objectifs, puisque l'intégralité des logements restants à produire, quelque part, aurait dû être produit et réalisé entre 2020 et 2025, c'est-à-dire 50% sur la période 2020-2022 et le solde sur la période 2023-2025 pour, et Laurent l'a rappelé encore une fois, une commune sur deux qui a 10 points de son objectif, c'est-à-dire une augmentation du parc de logements assez faramineuse en 6 ans. Donc on a un nouveau dispositif avec la loi 3DS qui supprime cette échéance de 2025 et qui fixe des nouveaux objectifs qui se définissent finalement en reste à faire, avec un taux de rattrapage de référence fixé à 33% du déficit par rapport au taux cible, qui permet de maintenir les communes les plus éloignées à des niveaux d'ambition élevés, c'est-à-dire un niveau de production suffisamment important, mais avec des objectifs qui finalement restent réalistes et ne conduisent pas les communes à se décourager par rapport à des objectifs qui seraient beaucoup trop importants par rapport à leur capacité à faire. Par ailleurs, pour éviter tous les effets asymptotiques à mesure que les communes se rapprochent de leurs objectifs, le nouveau dispositif relève les taux de rattrapage à 50% pour les communes qui sont entre 2 et 4 points de leur taux de référence, et le monte à 100% dès lors que l'écart est à moins de 2 points de l'objectif, c'est-à-dire au-delà de 18% pour les communes qui visent un objectif de 20% et au-delà de 23% pour les communes qui visent un objectif de 25%. Un autre objectif de la loi 3DS a été de lisser pour les communes nouvellement entrantes l'entrée dans le dispositif, en abaissant notamment le taux de rattrapage pour les communes nouvellement soumises et pour les communes soumises à un premier exercice complet de 3 ans, un premier triennal plein quelque part, en fixant à 10% du déficit observé pour les communes nouvellement entrantes le taux de rattrapage contre 15 précédemment. précédemment et en fixant à 15% pour le premier triennal plein contre 20% précédemment. Donc c'est une baisse de 5 points pour finalement permettre aux communes de mettre en place aussi tout l'appareil opérationnel qui permet de produire du logement social, de faire de la programmation de logement au sens de l'urbanisme. Enfin, le législateur a aussi souhaité simplifier les dispositions qui permettaient de moduler ces objectifs, qui étaient jusqu'ici quand même assez lourdes, qui passaient par la Commission nationale SRU, qui sont désormais traitées à l'échelle locale à travers des contrats de mixité sociale qui sont conclus entre les communes et les préfets de département.
Alors ça, c'est un point qui va intéresser nos auditeurs et particulièrement les collectivités. Laurent, comment procèdent ces contrats de mixité sociale ?
Alors, ce contrat de mixité sociale qui fait son entrée dans la loi, qui fait son entrée dans le droit d'ailleurs, il correspondait déjà à une pratique qui s'était développée ces dernières années et qui avait même d'ailleurs été soutenue par une circulaire ministérielle de 2015. Bien évidemment, on franchit un cap nouveau en donnant cette fois une place tout à fait centrale à ce contrat de mixité sociale dans le dispositif SRU et en faisant, la loi en fait finalement un cadre d'engagement et de moyens destiné à permettre à la commune d'atteindre ses objectifs ou du moins à lui faciliter ce travail d'atteinte des objectifs par la contractualisation, c'est-à-dire par le partenariat. Alors ce contrat, il est conclu pour une durée de 3 ans, hein, de 3 années renouvelables, entre la commune, l'État, représenté par le préfet, et l'intercommunalité, c'est-à-dire le président de l'EPCI. J'insiste bien, ces trois signataires sont obligatoires. Hein, c'est vraiment le minimum pour pouvoir conclure, contractualiser. Et la loi a également prévu la possibilité, donc là c'est au cas par cas évidemment, la possibilité d'ouvrir la signature du contrat de mixité sociale à d'autres acteurs, finalement à tout acteur qui est susceptible de contribuer, de faciliter, de prendre part à la réalisation des objectifs de la commune. On peut penser bien évidemment en particulier aux bailleurs sociaux, hein, à tous les opérateurs du logement social. On peut penser évidemment aussi aux établissements publics fonciers qui couvrent une large part du territoire national, en tout cas qui couvrent une large part des communes soumises à rattrapage au sens de la loi SRU. On peut penser aux établissements publics d'aménagement, etc. Ben finalement, tout acteur qui est à même d'apporter une forme de contribution. Et du coup, ce contrat de mixité sociale, hein, qui devient finalement un lieu de dialogue renouvelé entre l'État, les collectivités et l'ensemble des acteurs, il va être amené à mobiliser l'ensemble des leviers qui vont favoriser la production de logements sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, il présente une dimension moyen et une dimension qualitative qui est tout à fait essentielle au-delà de contractualiser un objectif à atteindre, un objectif chiffré de production. À ce titre, au titre des moyens à mobiliser, on peut en particulier citer tout ce qui relève de l'action foncière, de la politique foncière, on peut citer tout ce qui relève de l'urbanisme, et je pense en particulier notamment à la planification territoriale, tout ce qui relève du PLU intercommunal, des outils qu'on va mobiliser à l'intérieur de ce PLU, tout ce qui relève de la programmation, évidemment, du développement de l'offre, son financement, par exemple, les modalités de soutien financier à la production de logements, et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui peut relever de l'action des différents acteurs et opérateurs que je citais tout à l'heure. Donc on le voit finalement, ce contrat de mixité sociale, ça devient un peu le creuset du partenariat, de la mobilisation locale en faveur du développement de l'offre de logement social.
Il y a aussi des modulations qui vont être permises par ce contrat de mixité sociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point ?
Tout à fait. Alors la loi ne se limite pas finalement à consacrer le contrat de mixité sociale. Elle lui ouvre aussi une possibilité extrêmement nouvelle de venir adapter, de venir moduler l'objectif de rattrapage triennal. Et ça, c'est véritablement complètement nouveau. Bien évidemment, les CMS qui avaient pu se développer au cours des années passées n'avaient absolument pas cette possibilité, le droit ne le prévoyant pas. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'appui de la conclusion du contrat de mixité sociale, il va désormais être possibilité, lorsque c'est nécessaire, évidemment, et lorsque les conditions locales le justifient, ça c'est évidemment un principe essentiel, de venir adapter à la baisse le taux de rattrapage, les taux de rattrapage que Benoît vous a présentés à l'instant, et ce, durant un maximum de 3 périodes triennales consécutives, soit 9 ans. Pour rentrer un peu dans le détail, le taux de rattrapage de référence dit de 33% hein, qu'a présenté Benoît va pouvoir être abaissé dans la limite de 25%, hein, donc 25 étant un plancher. Le taux de rattrapage de 50% pour les communes qui s'approchent de l'objectif va pouvoir être abaissé dans la limite de 40%, un plancher à 40%. Et le taux de rattrapage de 100%, là pour les communes qui, vous savez, sont à moins de 2 points de l'objectif cible, va pouvoir être abaissé dans la limite de 80%, 80% constituant donc ce plancher. Ça, c'est la première possibilité qui a été prévue par la loi, ce qu'on appelle le contrat de mixité sociale dit « abaissant ». Le législateur est allé plus loin en prévoyant aussi la possibilité, à côté de ce contrat de mixité sociale dit abaissant, de prévoir, à l'échelle de l'EPCI, un contrat de mixité sociale mutualisant qui va permettre aux communes déficitaires, et exclusivement entre communes déficitaires, hein, c'est un mécanisme qui ne peut pas être ouvert à d'autres communes qui ne seraient pas soumises à rattrapage au titre de la loi SRU, de venir mutualiser, de venir se partager, si je puis dire, leurs objectifs pendant un maximum de 2 périodes triennales consécutives, donc une durée un petit peu plus courte. Pour cela, il faut que l'EPCI soit couvert par un programme de local de l'habitat, un PLH qui soit exécutoire. Il faut que l'objectif assigné à chacune des communes qui contractualisent ne soit pas inférieur à la moitié de ce qu'aurait été son objectif normal de réalisation. Par exemple, son objectif avec le taux applicable avec le taux de référence de 33%. Et il faut aussi, bien évidemment, ça paraît assez logique, que la somme des objectifs des communes qui sont partie prenante à ce CMS dit mutualisant ne soit pas inférieure au total des logements sociaux qu'elles auraient eu à atteindre chacune de leur côté. Dernière précision pour vous dire que ce contrat de mixité sociale mutualisant, qui donc évidemment nécessite l'accord de toutes les parties, encore une fois, tous les maires concernés doivent y souscrire, sinon sa conclusion n'est pas possible, est soumis aussi par exception dans la loi 3DS à l'avis préalable, mais c'est un avis simple, de la Commission nationale SRU. C'est la seule catégorie de contrat de mixité sociale qui est soumise à l'avis préalable, l'avis simple de la Commission nationale SRU. Pour terminer, on peut aussi relever peut-être quelques caractéristiques des contrats de mixité sociale qui sont prévus par la loi et qui sont pour le coup qui s'appliquent à toutes les catégories de contrats de mixité sociale, qu'il s'agisse d'un contrat de mixité sociale applicable à une seule commune, à un ensemble de communes, qu'il soit simplement abaissant ou mutualisant. Ces principes sont les suivants. Tout d'abord, le contrat de mixité sociale fait l'objet d'une annexion au PLH, au programme local de l'habitat. Hein, et c'est tout à fait logique, puisqu'on sait que le PLH est notamment fondé sur les objectifs de rattrapage des communes déficitaires. Et dès lors qu'évidemment un CMS vient adapter ces objectifs de rattrapage prévus par la loi, ben, il est tout à fait logique qu'il en soit tenu compte dans le PLH par la voie de cette annexion par simple délibération de l'EPCI. La deuxième caractéristique qu'on peut citer, c'est que le législateur a souhaité donner un peu plus de souplesse et notamment un peu plus de calendrier à des communes qui sont soumises à des contraintes particulières, finalement en leur permettant de déroger à la limitation de durée du contrat de mixité sociale. Notamment, vous savez que le contrat de mixité sociale abaissant est limité à 3 fois 3 ans. Et du coup, le législateur a prévu que cette limite à 3 fois 3 ans ne s'appliquait pas, il pouvait donc y être dérogé, aux communes qui présentent une part importante de leur surface urbanisée qui est inconstructible, mais sans pour autant atteindre le seuil de 50% qui permet, on le verra tout à l'heure, d'être exempté pour inconstructibilité, pour les communes qui sont en dessous de ce seuil. Hein. Et également, le législateur a prévu cette possibilité pour les communes qui comptent moins de 5000 habitants, donc les communes les moins importantes. Enfin, le législateur a également prévu un autre dispositif qui consiste en une obligation pour le préfet de proposer aux communes qui font l'objet d'un constat de carence. Donc le constat de carence, en fait, il est susceptible d'intervenir à l'issue d'une période triennale, à l'issue du bilan triennal, lorsque d'une part la commune n'a pas atteint ses objectifs et que de surcroît, elle n'a pas forcément manifesté de tous les moyens nécessaires pour les atteindre. Dans ce cas-là, elle peut faire l'objet d'un constat de carence pris par le préfet. Et le législateur a prévu que dans ce cas de figure, lorsque une commune fait l'objet d'un constat de carence, le préfet lui propose d'élaborer un contrat de mixité sociale. C'est une proposition d'élaborer. C'est pas évidemment une obligation de signature. Encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus parce que là, c'est le droit des contrats qui s'applique. C'est la théorie générale du contrat. Le contrat étant par nature même fondé sur la liberté contractuelle. Pour contracter, il faut évidemment que toutes les parties soient d'accord. Ça reste vrai dans tous les cas.
Merci Laurent pour toutes ces explications. Benoît, vous avez abordé tout à l'heure la question des communes exemptées dans ce domaine. Qu'apporte la loi 3DS ?
La loi 3DS a modifié les trois motifs d'exemption pour les communes qui pouvaient en bénéficier, qui étaient pour mémoire l'inconstructibilité, la faible tension et les motifs d'isolement. En modifiant pour l'inconstructibilité, la loi 3DS déconcentre la décision d'exemption qui était jusqu'ici finalement soumise à une procédure nationale avec proposition de l'EPCI et qui maintenant est prise simplement, si je puis dire, par arrêté préfectoral, avec l'ajout dans les critères d'inconstructibilité les zones de recul du trait de côte et les périmètres de protection immédiate des points de captage, et à ajouter en contrepartie une obligation pour les communes qui finalement seraient exemptées d'obligation SRU, néanmoins une obligation de production de 25% de logements sociaux dans les gros programmes, c'est-à-dire les programmes de plus de 12 logements ou plus de 800 m2, pour les communes hors agglomération ou EPCI faiblement tendues, bien sûr, où le besoin n'est pas manifeste, mais pour permettre finalement dans les communes exemptées où le besoin en logements sociaux peut être réel, mais soumise à des contraintes matérielles, quand des logements sont produits, qu'une part quand même puisse être réservée aux ménages les plus fragiles. Ensuite, la loi 3DS pour les motifs d'exemption pour faible tension a ouvert le critère qui était jusqu'ici ouvert à seulement une partie du territoire, à l'ensemble du territoire SRU, et donc non plus seulement aux agglomérations, c'est-à-dire aux unités urbaines au sens de l'INSEE, aux agglomérations de plus de 30 000 habitants. Donc cette exemption pour faible tension pourra s'appliquer aussi aux EPCI. Et enfin, à modifier substantiellement l'exemption pour desserte insuffisante, qui était jusqu'ici une faible desserte constatée de transport en commun, ce qui rendait la mesure assez peu opérationnelle, pour la remplacer par une exemption pour isolement et difficulté d'accès au bassin de vie et d'emploi environnant. L'idée étant de dire que finalement, une commune qui n'a pas forcément beaucoup de transports en commun peut néanmoins être attractif, ne serait-ce que par transport en voiture, très classiquement, mais par autre chose.
Merci Benoît. Laurent, si j'ai bien compris, la plupart des mesures introduites par la loi 3DS auront des effets sur la prochaine campagne d'objectifs qui ira de 2023 à 2025. C'est demain, sans mauvais jeu de mots. Que va-t-il se passer d'ici le début de l'année, là, pour les 6-7 mois à venir ?
Alors tout d'abord, il faut peut-être rappeler un point important, c'est que le triennal 2020-2022, qui est en cours, n'est pas terminé. Il ne se terminera qu'à la fin de l'année. Et j'insiste un peu sur ce point parce que, bien évidemment, même si la loi 3DS refonde assez largement le dispositif de rattrapage à compter du prochain triennal, le triennal 2023-2025, n'oublions pas cet enjeu collectif auquel nous faisons face, qui est de s'efforcer tous ensemble de terminer dans les meilleures conditions, avec les meilleurs résultats en fait, le triennal 2020-2022 qui est en cours. Je pense que c'était quand même important de le rappeler, d'autant plus que les objectifs qui sont appuyés à ce triennal 2020-2022, qui était donc issu de la loi telle qu'elle était avant 3DS, sont, il faut le dire, particulièrement ambitieux. Donc mobilisation, bien évidemment, pour atteindre les objectifs du triennal 2020-2022, et ce jusqu'à la fin de l'année. Il n'est pas encore encore trop tard, hein, notamment pour aller chercher des opérations nouvelles, pour les soutenir et pour favoriser leur financement, leur engagement d'ici la fin de l'année. Ensuite, si maintenant on s'attache aux autres tâches qui sont devant nous, je dirais qu'elles sont de quatre ordres, et vous le voyez, finalement, au cours des prochains mois, nous n'allons pas nous ennuyer. Premièrement, tout d'abord, il va nous falloir, Benoît vient de l'expliquer, donc je ne vais pas le redétailler, il va nous falloir mener cette procédure d'exemption en préparation du prochain triennal, du triennal 2023-2025. Donc là, vous l'avez vu, hein, il y a deux cas de figure qui sont assez maintenant clairement identifiés. Le premier qui relève de la compétence déconcentrée de l'exemption pour inconstructibilité, donc entre les mains du préfet, et puis les deux autres motifs d'exemption qui continuent à relever du dispositif national, en sachant que de notre côté, avant que les EPCI puissent s'engager dans la préparation de leurs propositions pour les deux autres motifs d'exemption, hein, l'exemption pour isolement et l'exemption pour faible tension, nous avons un texte à prendre, nous avons un décret d'application de la loi 3DS à prendre pour venir définir cette question de l'isolement génératrice d'une faible attractivité de la commune. Donc dès que ce texte sera pris, les EPCI pourront s'engager dans leur travail de proposition qu'ils nous adresseront et que nous instruirons d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est le premier point, préparer le dispositif d'exemption des trois années prochaines. Deuxième enjeu, évidemment, en lien avec tout ce qu'on s'est dit auparavant, ouvrir la préparation des contrats de mixité sociale. Alors effectivement, ces contrats de mixité sociale, même si juridiquement rien ne s'y opposerait, mais il est encore un peu tôt pour les conclure. En revanche, il n'est pas forcément trop tôt pour commencer à y travailler, à y réfléchir, à les préparer, à échanger, notamment sur les ambitions, notamment sur les moyens et les leviers à mobiliser, tout ce travail qualitatif qu'on évoquait tout à l'heure et qui nécessite un vrai travail de préparation entre les collectivités locales, l'État et les opérateurs engagés localement. C'est vraiment la deuxième mission importante sur laquelle j'insisterai. Troisièmement, nous allons avoir, et ça c'est assez classique et traditionnel, mais c'est néanmoins quand même un travail à mener, le travail d'inventaire, de mise à jour de l'inventaire des logements sociaux, des logements décomptés au titre de la loi SRU, l'inventaire du 1er janvier 2022. Il est important cet inventaire du 1er janvier 2022 parce que c'est lui qui va finalement servir de référence notamment au calage définitif des objectifs du prochain triennal, hein, puisque ces objectifs vont eux-mêmes être assis sur un déficit de logements à combler. Et ce déficit de logements à combler, effectivement, est lui-même pour partie dépendant de la mise à jour de l'inventaire au 1er janvier 2022. Donc, un travail important à faire sur cet inventaire du 1er janvier 2022, qui est mené, là, pour le coup, en lien étroit entre les services déconcentrés de l'État et les communes, dans le cadre notamment d'une procédure d'échange et de contradictoire. Et puis, nous aurons, un tout petit peu plus loin de nous, mais finalement, ça arrivera quand même assez vite, nous aurons aussi à entamer la préparation du bilan triennal 2020-2022, hein, une fois qu'évidemment celui-ci sera terminé. Mais là aussi, c'est bien un sujet sur lequel il faut quand même qu'on commence à se pencher, à réfléchir, à anticiper, de sorte qu'on puisse, dans le courant de l'année 2023, et si je puis dire, le moins tard possible dans l'année 2023, même si évidemment là, on sera forcément au moins à mi-année, que nous puissions pouvoir, là aussi, dans le cadre d'une procédure d'échange très étroit, procédure contradictoire, tirer le bilan et les conséquences du triennal 2020-2022.
Merci Laurent pour cette conclusion, toutes ces explications. Merci également à vous Benoît. Vous restez bien avec nous, on va maintenant répondre aux questions de nos auditeurs.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Et on répond à vos questions comme d'habitude avec vous Michel Philippe.
Oui Johanna, alors on a plusieurs questions de DDT, donc j'en profite pour rappeler à tous nos auditeurs qui sont en collectivité qu'on est aussi là pour vous répondre, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil, sur le chat de l'émission. Donc, y a la DDT d'Ardèche demande quand doit être élaboré le CMS. Est-ce qu'il faut d'abord faire le bilan triennal et définir les objectifs et donc élaborer le contrat de mixité sociale en 2023
Le contrat de CMS peut être engagé dès maintenant et va nécessiter forcément un certain temps de discussion avec la collectivité, les collectivités même, puisque la commune et le PCI. D'autres discussions aussi pour embarquer au maximum possible les bailleurs du territoire, l'établissement public foncier s'il y en a un, etc., etc. Donc à mon sens, les discussions et les travaux peuvent être engagés dès maintenant. Une chose est sûre, il faudra attendre d'avoir les objectifs pour pouvoir les inscrire dans les CMS. D'où un atterrissage prévu des CMS plutôt entre décembre 2022 et mars 2023 pour tirer parti des inventaires, avoir une première idée du bilan et pouvoir fixer des grandes lignes qui s'appuient sur finalement les objectifs légaux et réglementaires qui s'inscriraient hors CMS.
D'accord, donc le CMS ne doit pas être signé avant le 31 décembre 2022, là ça vient de retomber de la MAM DDT.
Si les inventaires sont connus, si, absolument. Les inventaires au 1er janvier 2022 qui vont fixer les objectifs seront connus probablement en octobre-novembre, en comptant les discussions contradictoires avec la commune. Donc dès décembre, le CMS peut être signé.
Il peut, mais ce n'est pas une obligation.
Une obligation.
Toujours pour Benoît, est-ce que vous pourriez rappeler les trois motifs d'exemption ?
Oui, il y a un motif d'exemption pour inconstructibilité qui est réalisé par arrêté du préfet de département de manière quasi automatique. Lorsque plus de 50% du territoire urbanisé est déclaré inconstructible, il y a un motif pour faible tension, c'est-à-dire finalement quand le ratio de la demande de logements sociaux sur le nombre d'attributions est en dessous d'un certain seuil, qui est de mémoire 2, je crois, je me tourne vers Laurent, oui c'est ça, de mémoire 2, les communes peuvent être exemptées puisque finalement la tension n'est pas jugée suffisante pour nécessiter d'atteindre un taux de 25% qui représente quand même un saut important pour ces communes-là. Et le troisième critère, qui était jusqu'ici un critère d'exemption pour faible desserte en transport en commun et qui devient depuis le 22 février un critère d'isolement rendant peu attractives les communes. Il dit concrètement correspond en fait à des temps de transport importants qui ont comme conséquence de rendre la commune peu attractive pour le logement social en particulier.
Et une question de la DDT du Cher, toujours sur cette question de l'exemption. Est-ce que vous avez une idée de quand pourra paraître le décret d'exemption pour isolement ?
Eh bien, écoutez, on a un nouveau Premier ministre, une nouvelle Première ministre depuis hier, donc on attend d'y voir un petit peu plus clair, mais une chose est sûre, c'est qu'on donne tout pour finalement pouvoir prendre le décret en Conseil d'État avant le mois de juillet, pour pouvoir laisser suffisamment de temps aux collectivités aussi, et c'est nécessaire pour remonter, pour analyser la situation de chaque commune, pour que les remontées puissent intervenir avant le 30 septembre, qui est la date qui aujourd'hui est fixée dans le code.
Et est-ce qu'il y aura un décret pour la faible tension ?
Il y aura un décret pour la faible tension.
Également. C'est un autre décret,
oui.
D'accord. Et donc, on poursuit avec une question de Julie. Quelle est la consigne pour les CMS qui sont en cours d'élaboration ? Est-ce qu'on doit demander de faire un nouveau CMS postérieur à la loi 3DS ?
Alors, les CMS qui sont en cours d'élaboration, et ils sont finalement, somme toute, assez nombreux, ne posent en soi aucune difficulté. Hein. Vous l'avez compris, ils ont simplement, finalement, ils n'ont pas la faculté, en revanche, ils n'ont pas la faculté d'adapter les objectifs triennaux de rattrapage. Mais en soi, laisser continuer à vivre ces contrats de mixité sociale ne pose aucune difficulté. En revanche, ce qui est très clair, c'est que dès lors qu'on veut bénéficier des nouvelles dispositions relatives aux CMS qui sont introduites par la loi 3DS, les nouvelles possibilités, et notamment cette capacité d'adapter les objectifs, on ne peut évidemment le faire que postérieurement à la promulgation de la loi. Hein, ça, c'est un principe fondamental. Donc, à partir du moment où on veut bénéficier de toutes les nouveautés prévues par la loi 3DS en matière de contrat de mixité sociale, le dit contrat de mixité sociale doit forcément avoir été conclu postérieurement à la loi, c'est-à-dire, du coup, d'ici dans les échéances que Benoît évoquait à l'instant. Et dans ce cas-là, il viendra donc se substituer, ce nouveau CMS, 3DS, viendra se substituer au CMS antérieur qui préexistait.
Toujours des questions de DDT. Est-ce qu'un CMS mutualisant se fait obligatoirement avec toutes les communes déficitaires de l'EPCI? Et est-ce que ce CMS mutualisant peut indiquer le même taux de rattrapage pour toutes les communes engagées dans le CMS?
Alors oui, le CMS mutualisant doit inclure toutes les communes déficitaires. Et donc, y compris les communes qui ne verraient pas leur taux modifié par rapport au taux de référence. Et sur la deuxième partie de la question, oui, à la condition, et c'est l'impératif finalement du contrat de mixité sociale, que le total des objectifs, la somme des objectifs corresponde bien à la somme de l'objectif qui aurait été notifié en l'absence de CMS.
D'accord. Donc, on peut avoir le même taux de rattrapage. Le tout, c'est que la somme corresponde bien.
Oui, mais mathématiquement, j'ai l'impression que si toutes les communes ont le même taux, c'est que finalement aucun taux n'a changé.
On peut plus vraiment parler de véritable mutualisation parce que finalement, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, à partir du moment où on partirait du principe que chacune des communes qui contractualise a le même taux de rattrapage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce taux de rattrapage, il est forcément compris entre 33 et 25, en référence à tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, et qu'il est identique pour toutes les communes. Du coup, partant de ce principe-là, on voit mal quel serait son caractère mutualisant. Ce serait finalement un contrat de mixité sociale uniformisant. plus que mutualisant. Donc finalement en soi, la question n'a pas vraiment lieu d'être. On ne peut plus parler de mutualisation dans ce contexte-là.
D'accord, oui. Et peut-on inscrire plusieurs communes sur un CMS abaissant ou faut-il faire un CMS par commune?
Bon, on peut tout à fait inscrire plusieurs communes dans un CMS abaissant. Là-dessus, il n'y a aucune difficulté. Pour le CMS abaissant, en fait, tout est possible. Contractualiser commune par commune, contractualiser avec l'ensemble des communes de l'EPCI, ou même contractualiser pour certaines communes, j'allais dire collectivement, et pour d'autres individuellement, tout est possible. C'est uniquement pour le CMS mutualisant que ce dernier embarque nécessairement la totalité des communes déficitaires de l'EPCI.
Une dernière question sur les ratios de tension. Est-ce que les seuils des ratios de tension seront revus en tenant compte de la crise sanitaire et des difficultés d'emménagement dans le parc social?
C'est une bonne question. C'est très honnêtement, c'est une question qui n'a pas encore été expertisée, donc je vais être très très prudent là-dessus. Vous savez que jusqu'à présent, ces seuils... Déjà, premièrement, il faut rappeler que ces seuils ne sont pas fixés par la loi, ils sont fixés eux-mêmes par décret. Par définition, ils peuvent aussi évoluer par décret. Bien évidemment, lorsqu'on va instruire la procédure d'exemption, ce travail d'exemption pour le triennal 2023-2025, on est bien d'accord que là, on parle pour l'avenir. Bien évidemment, c'est une question qu'on va être amené à expertiser, à regarder. Néanmoins, il est aujourd'hui très prématuré de tenter d'y répondre tant qu'un vrai travail d'analyse n'a pas été fait. Et pour le coup, on ne peut pas, à ce jour, se positionner sur cette question des taux pivots qui serviront finalement de référence à l'exemption pour faible tension du triennal 2023-2025. Ce travail-là nécessite véritablement des investigations beaucoup plus approfondies qui n'ont pas encore été engagées.
Merci Laurent Bresson, sous-directeur des politiques de l'habitat à la direction chargée de l'habitat et de l'urbanisme des ministères en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et vous étiez ce matin accompagné de Benoît Chantoiseau, chef du bureau du développement de l'offre de logement social et intermédiaire à la sous-direction des politiques de l'habitat. Merci à tous les deux pour vos explications sur cette loi SRU. Merci à vous Michel Félep d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes chef de la mission mobilisation des territoires au sein de la direction chargée de l'habitat et de l'urbanisme, des ministères en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. C'était à nouveau un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Radio Territoria ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que toutes les émissions, les précédentes du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement sont disponibles en podcast sur notre site Radio Territoria, sur notre appli du même nom et sur tous vos agrégateurs de podcasts habituels. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très vite avec un nouveau numéro du MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Très bonne journée.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec le ministère en charge du logement, à réécouter et à télécharger sur Radio Territoria et toutes les plateformes d'écoute habituelles.